France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec cette interrogation. Ce soir, le Covid est-il soluble dans la démocratie? Ou pour dire les choses autrement, l'état de droit est-il en mesure de résister à l'état d'urgence sanitaire? On pose la question à notre invité, le constitutionnaliste Dominique Rousseau, à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de la revue du droit public sur les états d'exception, un test pour l'état de droit. Car la crise sanitaire est une épreuve pour nos institutions. Elle pose notamment la question du contrôle des décisions, contrôle juridique, mais aussi contrôle politique. Pas inutile d'y réfléchir à l'heure où la cinquième vague déferle et où le Parlement a donné son feu vert pour de nouvelles restrictions aux libertés jusqu'en juillet prochain.
Nous décidons qu'un gouvernement, quel qu'il soit, peut prendre une décision, nonobstant les élections qui auront lieu au mois d'avril prochain.
C'est une atteinte aux libertés. Ça ne peut se faire que sous le contrôle du Parlement, dans une démocratie parlementaire.
Dérive monarchique, diront certains, dans un pays où tout remonte au président. Pour preuve, le courrier de l'Élysée.
Tout citoyen peut être amené à donner son opinion et donc pourquoi pas au président de la République. On lui écrit, on lui exprime quelque chose et puis après le président et le service en font ce qu'ils veulent.
1500 courriers chaque jour, reportage de Rémi Brancato à suivre. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Fanny Cohen-Moreau, l'actualité de la semaine avec un vrai malaise dans le monde judiciaire.
Nous, on a le sentiment de rendre une justice qui n'est pas là pour écouter, qui résonne uniquement en chiffres, qui veut tout chronométrer et tout comptabiliser.
Des milliers de magistrats tirent le signal d'alarme, on en parlera là aussi avec notre invité. À 19h, le journal de Marion Lourd, à 19h20, quelles ressources pour les personnes handicapées. On fait le point alors que l'opposition dans son ensemble réclame la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Ultime débat la semaine prochaine à l'Assemblée et avant cela, ce soir au téléphone sonne. Pour y participer, 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Clémentine Ducasse qui surveille vos mails ainsi qu'à Henri Bérec, Ronan Mahé et Clément Berman qui sont à la technique.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Dominique Rousseau.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes professeur émérite de droit public à Paris 1, auteur de nombreux ouvrages spécialisés, mais aussi d'autres livres plus grand public. Il y a eu le Consulat Sarkozy, publié en 2012, Radicaliser la démocratie en 2017. Vous êtes là à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de la revue du droit public aux éditions L'Extinso. Son titre, Les états d'exception, un test pour l'état de droit. C'est un numéro spécial que vous avez coordonné et dirigé. Alors, c'est pointu, hein. Mais comme l'état de droit, a priori, intéresse tout le monde et qu'il y a en ce moment des gens qui descendent dans la rue pour parler de dictature, ben, il n'y a pas de raison pour qu'on ne s'y arrête pas, surtout à l'heure où, je le disais, la cinquième vague déferle. D'abord, peut-être, que répondre à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une discussion de salon pour initier, alors que, ben, que l'urgence, c'est de, en temps de pandémie, nécessite d'agir avant toute chose?
Agir, oui, bien sûr qu'il faut agir dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons contre la pandémie et la cinquième vague qui arrive, mais agir dans le respect des libertés. Parce que la santé d'un pays, la santé d'une nation, c'est aussi sa santé psychologique, sa santé morale. Lorsqu'on porte atteinte aux libertés, on porte atteinte à une partie de l'être humain. Et par conséquent, le respect, agir dans le respect des libertés est un impératif que tout gouvernement doit avoir en tête.
Ces mesures dérogatoires qui sont prises depuis plusieurs années, il y a eu avant l'état d'urgence sécuritaire, il y a maintenant cet état d'urgence sanitaire, est-ce qu'elles nous font sortir de l'état de droit ou est-ce que c'est simplement des parenthèses exceptionnelles qui sont d'ailleurs prévues par les textes, hein. L'état d'urgence sécuritaire est prévu par la loi de 55, l'état d'urgence sanitaire est prévu par le Code de la Santé publique.
Alors c'est toute la question du numéro spécial. On s'est interrogé sur le point de savoir si ce qu'on vit depuis quasiment 2015, hein, l'état d'urgence sécuritaire, puis l'état d'urgence sanitaire, est-ce que c'est une parenthèse ou bien est-ce que c'est une nouvelle forme d'État qui s'installe? On distingue généralement l'État de police, où le gouvernement fait ce qu'il veut, l'État légal, où le gouvernement est soumis à la loi, l'État de droit, où le législateur lui-même est soumis à la Constitution et aux traités internationaux. Est-ce qu'on va vers une quatrième figure, l'État de surveillance, l'État de contrôle, abandonnant le principe de l'état de droit? C'est toute la question qui est posée dans ce numéro spécial, qui est conçu autour de trois parties. Une réflexion un peu doctrinale, un peu philosophique, un peu théorique sur qu'est-ce que c'est qu'un état d'exception. Une deuxième partie sur comment on gouverne en état d'exception, et une troisième partie sur comment on juge en état d'exception. Et j'ai fait appel, disons, à des collègues et des spécialistes de chacune de ces disciplines, par exemple sur l'aspect théorique, il y a mon collègue d'Aix-en-Provence, Xavier Magnon, qui a essayé de conceptualiser l'état d'exception. Sur le gouvernement, j'ai fait appel à Jean-Jacques Urvoas, qui a été président de la commission des lois pendant l'état de sécuritaire et qui nous a fait une analyse du contrôle, vous parliez tout à l'heure, le contrôle politique, quel contrôle politique possible pour le Parlement en état d'urgence et sur les juges. J'ai demandé à Maître Louis Boré, qui était à l'époque président de l'Ordre des avocats au Conseil, d'analyser la position de la Cour de cassation. Donc nous avons fait un travail avec le recul. Il y a eu évidemment des articles sur l'état d'urgence, mais la spécificité de la revue de droit public, c'est de prendre du recul, de faire appel aux meilleurs spécialistes sur la question, afin de livrer au public une analyse de ce que le public est en train de vivre. Ne pas avoir le nez sur le guidon, ça certains le font très bien, mais avoir un point de vue un peu distancié pour réfléchir sur ce qui nous arrive aujourd'hui, avec comme point de mire, est-ce que c'est une parenthèse, c'est ce que vous avez dit, ou est-ce que c'est une nouvelle forme de figure. Ce qu'on constate...
Alors vous allez nous aider à réfléchir, Dominique Rousseau. On va peut-être reprendre les choses par le commencement. Ce que vous faites d'ailleurs dans cette revue, vous revenez sur le début de la crise sanitaire,
oui,
sur la façon dont les décisions ont été prises,
oui,
et annoncées. Alors on va se remettre en mémoire ce qui s'est passé le 16 mars 2020. Le premier tour des élections municipales venait tout juste d'avoir lieu.
Après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Le Premier ministre en a informé aujourd'hui même les chefs de parti représentés au Parlement. Cette décision a fait l'objet d'un accord unanime.
Ce soir-là, 35 millions de téléspectateurs ont suivi l'intervention du chef de l'État.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible, afin aussi que la vie démocratique et le contrôle du Parlement continuent dans cette période.
Dominique Rousseau, le président prend bien soin, dans les deux cas, d'associer l'opposition. Il n'oublie pas le fonctionnement démocratique, il le dit.
Le fonctionnement démocratique en état d'exception est affaibli. Si vous prenez, vous avez pris des exemples du mois de mars de 2020, si vous prenez 2021, prenez le discours du président de la République du 12 juillet. Que dit le président de la République? Le président de la République dit, voilà, il va y avoir une loi qui va imposer le vaccin pour les soignants et qui va imposer le pass sanitaire, et cette loi entrera en application le 5 août. Mais dans la Constitution, qui a l'initiative des lois? C'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre et les parlementaires. Et que fait-il du contrôle de constitutionnalité sur la loi? Autrement dit, il y a dans l'état d'exception que l'on vit depuis 2015, il y a un affaissement. Je ne dis pas que nous sommes en dictature. Je dis qu'il y a un affaissement des principes de l'état de droit. Ces principes de l'état de droit, ils sont simples. C'est la séparation des pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel, il a entériné la plupart des textes.
Absolument.
Il s'est prononcé.
Absolument.
Il n'a pas été absent.
Il y a un affaissement des contrôles. Affaissement du contrôle par le Conseil constitutionnel, affaissement du contrôle par le Conseil d'État, affaissement du contrôle par la Cour de cassation. Et pourquoi cet affaissement?
Mais en quoi est-ce que, par exemple, il y a un affaissement du contrôle par le Conseil d'État? Parce que le Conseil d'État, on rappelle, il intervient sur toutes les mesures qui ont pu être prises en vertu de cet état d'urgence. En quoi est-ce que le Conseil d'État aurait baissé la garde?
Parce que dans l'exercice du contrôle, que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Dans l'exercice du contrôle, ces deux juridictions mettent en balance la sauvegarde de l'ordre public et le respect des libertés. En période normale, si j'ose dire, l'arbitrage est à peu près équilibré. En période exceptionnelle, eh bien, ces deux juridictions ont privilégié la sauvegarde de l'ordre public sur le respect des libertés. Alors qu'elles auraient dû, de mon point de vue, être encore plus attentives, puisqu'il y avait une atteinte portée aux libertés, ces deux juridictions auraient dû être plus attentives au respect des libertés. Elles ont donné un avantage à la sauvegarde de l'ordre public, de la santé publique, oubliant que la santé d'un pays, c'est aussi l'exercice des libertés. Un pays qui n'exerce plus ses libertés est un pays qui étouffe et qui meurt petit à petit.
Vous dites que le président prend l'initiative des lois, mais ça ne date pas de l'état d'urgence. Dominique Rousseau, on sait bien que c'est l'exercice de notre 5e République. Et puis, d'autre part, Emmanuel Macron a pris soin de s'entourer d'un certain nombre d'instances de consultation, le fameux conseil scientifique, par exemple.
Et qui prend les décisions? Qui prend les décisions? C'est le Conseil des ministres. Le conseil scientifique est un conseil qui a été créé ad hoc par le président de la République, alors qu'il existait des autorités déjà constituées, déjà existantes, compétentes pour donner des conseils au président de la République, mais le président de la République a préféré créer un conseil qui se réunissait et qui n'a pas de base constitutionnelle, et qui se réunissait avant le Conseil des ministres, là où toutes les décisions étaient prises, et le Conseil des ministres devenait une sorte de chambre d'enregistrement. Alors, le Parlement est déjà une chambre d'enregistrement. Si en plus le Conseil des ministres devient une chambre d'enregistrement de la volonté du président de la République élaborée dans un conseil dont il a lui-même nommé les membres, vous voyez qu'il y a là une dérive. Mais vous aviez raison de faire remarquer que ce que révèlent les états d'exception, je dirais, c'est la nature même de la Ve République. Et l'état d'exception exacerbe ce qui est finalement le fonctionnement normal de la Ve République, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Giscard, les uns et les autres, c'est une hyper-présidence. Et cette hyper-présidence, elle est à peu près masquée en temps normal, elle se révèle au grand jour un état d'exception.
Alors on va dire un mot du texte que le Parlement vient de voter pour enjamber la présidentielle et les législatives, la loi de vigilance sanitaire. C'est un texte qui est critiqué par les oppositions de droite et de gauche. On va écouter d'abord le député insoumis Jean-Luc Mélenchon. C'était sur France Culture avec Grégory Philips.
À quoi nous sommes en train de nous habituer? Un type tout seul décide dans son conseil de défense de tout sur la santé. Arrive le pass sanitaire. Il nous amène jusqu'à juillet prochain. Pourquoi juillet? Pardon, je vous pose la question. Pourquoi pas août? Pourquoi pas septembre? Pourquoi pas juin? On ne sait pas et on ne le saura jamais. Sauf que ce qu'on sait, c'est la vision du monde que cette affaire porte. Autrement dit, nous décidons qu'un gouvernement, quel qu'il soit, peut prendre une décision, nonobstant les élections qui auront lieu au mois d'avril prochain. Le caractère de monarchie présidentielle est de plus en plus accentué dans notre pays. Progressivement, tout le monde s'habitue à tout.
Et on va entendre maintenant le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Là, c'était sur France Info.
Il n'est pas question de donner un blanc-seing jusqu'au 31 juillet 2022. Il faut que ça soit sous le contrôle du Parlement. Et le contrôle du Parlement, ça veut dire qu'en février, nous devrons débattre à nouveau de la poursuite du processus de sortie de l'urgence. Vous savez, c'est une atteinte aux libertés individuelles et collectives. Ça ne peut se faire que sous le contrôle du Parlement, dans une démocratie parlementaire.
Alors voilà ce que disait Gérard Larcher avant que la loi ne soit votée. Elle a été votée et entérinée par le Conseil constitutionnel, Dominique Rousseau. La seule disposition qui a été retoquée, je crois que c'est celle qui autorisait les directeurs d'établissements scolaires à avoir accès au statut vaccinal des élèves. Ça veut dire quoi? Que le Conseil constitutionnel n'a pas été assez vigilant depuis le début de cette crise?
Je pense que le Conseil constitutionnel n'a pas été vigilant au début de cette crise et tout au long de cette crise. Je vous rappelle que la première décision prise par le Conseil constitutionnel au mois de mars 2020 a été de juger que le non-respect du délai de transmission de la loi votée par l'Assemblée nationale au Sénat n'était pas grave parce que nous étions en circonstances exceptionnelles. La première décision du Conseil constitutionnel déjà montrait cette atteinte grave à la Constitution. Et depuis, toutes les décisions, je le disais tout à l'heure, ont privilégié la sauvegarde de la santé publique sur l'exercice des libertés publiques. C'est grave. C'est grave. Je crois que le président Larcher a totalement raison. Dans les autres pays.
Il y a des débats aussi.
Il y a des débats. Mais prenez l'Allemagne. Que faisait Angela Merkel? Angela Merkel convoquait une réunion de tous les présidents, les ministres-présidents des Länder. Et la décision a été prise de manière collégiale. Est-ce que les collectivités locales ont été associées aux prises de décision? Est-ce que les présidents de région ont été associés? Non. La décision a été prise au sommet, à l'Élysée, dans ce fameux Conseil de défense. Et ensuite, il fallait que les collectivités locales l'appliquent. Ce n'est pas comme ça que l'on gère une crise. Lorsqu'on gère une crise, je crois, il faut qu'il y ait un élément de confiance dans les citoyens, un élément de confiance dans la population. Et je pense que la population a montré jusqu'à présent qu'elle était capable d'actes civiques, d'actes responsables. Et c'est, je crois, un des éléments qui explique la crise de confiance dans les institutions actuelles.
Alors, on va évidemment y revenir, Dominique Rousseau, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano.
C'est des gens qui sont noyés pour 30 kilomètres.
Ça me touche beaucoup, énormément. C'est une honte. Et là, c'est pire. Ce soir, c'est pire, là.
C'est un grand deuil national pour la France, pour l'Europe, pour l'humanité.
Gérald Darmanin à Calais, après le naufrage d'une embarcation qui a coûté la vie à une vingtaine de migrants, des exilés que rien n'arrête, ni la Manche, ni les conditions de vie dans le Calaisie.
Le ministre est là, il vient ici, pourquoi faire? Il faut arrêter la violence, il faut arrêter les démantèlements, il faut leur donner une tente, il faut leur laisser leur sac de couchage.
Les associations qui leur viennent en aide réclament une solution depuis des années.
Il faut surtout du courage politique, en fait. Il faut effectivement que la France et la Grande-Bretagne se mettent autour d'une table et se disent en fait comment on fait pour que les gens n'aient plus à risquer leur vie pour traverser un détroit de 30 km.
Coup de chaud aux Antilles avec des émeutes en Guadeloupe, des tirs et des pillages.
Ils ont tout vandalisé, tout.
C'était des bandes de jeunes habillés en noir, 10-15 ans, c'était 100-150.
Des jeunes qui prennent prétexte de la colère des antipass et des antivax.
On n'est pas avec le truc du pass sanitaire, on s'en fout.
Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences.
Il a parlé pour parler. Ça fait 4 mois que nous sommes dans la rue à marcher tous les samedis.
On ne va pas calaguer, on ne va pas lâcher. Il faut que ce soit le gouvernement qui cède.
Mais pour le gouvernement, pas question de céder sur l'obligation du pass sanitaire pour les soignants, alors que dans l'Hexagone, la cinquième vague déferle. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague, de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles évoluer. À compter du 15 janvier, une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre passe sanitaire.
Tout faire pour préserver l'hôpital déjà mal en point, autre service public à la peine, la justice.
Il y a un problème structurel de fonctionnement de la justice.
Cette semaine, une tribune lancée par des magistrats a été signée par quelques 3000 juges et greffiers, le tiers de la profession.
Nous, on a le sentiment de rendre une justice qui n'est pas là pour écouter, qui raisonne uniquement en chiffres, qui veut tout chronométrer et tout comptabiliser.
À 4 mois et demi de la présidentielle, échange d'amabilité entre Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Elle n'a aucune chance de jamais de gagner l'élection présidentielle.
Sa candidature, qui pour le coup n'a aucune chance d'arriver au second tour, est une candidature qui affaiblit le camp national.
Lui avait déjà quitté le gouvernement et la vie politique. Il se retire de la vie publique tout court.
Je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré.
Nicolas Hulot, mis en cause par des femmes dont les témoignages ont été recueillis pour l'émission Envoyé spécial. Élise Lucet.
Dans la manière qu'elles ont de raconter ce qu'elles disent avoir subi, il y a vraiment des ressemblances.
Ces accusations sont purement mensongères.
Un dossier diffusé le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, avec comme chaque année dans la rue des manifestations.
C'est pas normal qu'on n'ait pas le droit de s'habiller comme on veut, de devoir être jugé comme ça tout le temps.
Il y en a plein qui ont honte et qu'osent plus s'habiller court alors qu'on est en cinquième.
Elles ont beaucoup plus de travail que les hommes. Elles font double ou triple journée. Et les voir se faire maltraiter, c'est plus possible, quoi. Ça peut plus durer.
Et encore un grand merci à Fred Milano. Une semaine en France, en compagnie du constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dominique Rousseau, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre, à l'un ou l'autre sujet.
Peut-être sur le premier, les 27 morts dans la Manche qui s'ajoutent aux plus de 1300 dans la Méditerranée depuis janvier 2021. En tant que juriste, je suis profondément choqué. En tant que citoyen, bien entendu. Mais l'hospitalité, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental, mais depuis l'Antiquité. Quand on frappe à la porte, il faut ouvrir la porte. Et ce principe humain, très simple, n'est pas simplement un principe philosophique, c'est un principe de droit qui est dans les grands textes, dans les grands traités internationaux. Est-ce qui me rend furieux, c'est que ces pactes qui reconnaissent le droit d'hospitalité ont été signés par les États. C'est-à-dire que les États sont de mauvaise foi. Ils ne respectent pas les textes qu'ils ont signés. Et c'est ça qui est grave. Quand les États qui ont signé un texte ne respectent pas leurs obligations, il faut des sanctions, il faudrait créer une cour constitutionnelle internationale qui puisse sanctionner les États qui ne respectent pas les textes qu'ils ont eux-mêmes signés. Mais vous savez, ce qui est scandaleux aussi, c'est qu'il y a un relatif silence. Souvenez-vous, en 1979, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre vont à l'Élysée pour demander à Giscard d'accueillir les boat people. Où ils sont les intellectuels, les Finkielkraut et compagnie? Ils ont peur, ils se réfugient, ils disent rien? Ils approuvent? Je crois que là, il y a un moment important, et je suis désolé de mettre en colère un peu, mais je trouve qu'il y a là un sujet de société, au-delà de tout ce qu'on entend dans la campagne électorale. L'hospitalité est un droit fondamental qui signe la qualité d'une civilisation.
Vous m'amenez à la campagne électorale, avec justement cette question de l'immigration qui est largement évoquée à droite et à l'extrême droite. On a entendu Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour qui va peut-être se déclarer dans les jours qui viennent, malgré des condamnations. Il n'y a rien de prévu, Dominique Rousseau, dans la loi pour empêcher une personne condamnée d'accéder à l'Élysée? Parce que pour certains emplois, on demande un casier judiciaire vierge. Là, pour la fonction suprême, il n'y a rien de prévu?
Vous avez raison. Rien n'est prévu pour interdire à des personnes qui ont été condamnées pénalement de se présenter à l'élection présidentielle. Je crois qu'une proposition de loi a été déposée par un des candidats, je crois le candidat
par le Parti communiste
a dû déposer une proposition de loi. Je pense que c'est une bonne chose, mais tout simplement parce que, si vous voulez, lorsque la révision constitutionnelle a posé l'élection populaire du chef de l'État, on ne s'imaginait pas que des hulu-berlus puissent se présenter à l'élection présidentielle.
La présidentielle, c'est donc au mois d'avril. Ensuite, il y aura les législatives. On n'en parle pas beaucoup pour l'instant. Ça aussi, c'est dans la logique de notre système.
Alors c'est malheureusement dans la logique de notre système, puisque lorsqu'on a instauré le quinquennat en 2000, il a été en même temps décidé de mettre les élections législatives juste après l'élection présidentielle. De sorte qu'il y a un effet d'entraînement. Les élections législatives deviennent secondes et secondaires, et par conséquent, celui qui a gagné l'élection présidentielle a quasiment automatiquement, en tous les cas ça se confirme, une majorité à l'Assemblée nationale, d'où une majorité de députés Godillot, et d'où un déséquilibre des pouvoirs. Pour ma part, je souhaite que le président de la République soit déconnecté, et que le Parlement soit reconnecté à la société. Déconnecter le président, ça veut dire enlever au président...
Une partie de ses pouvoirs ?
La présidence du Conseil des ministres. Enlever au président le droit de dissolution. Et remettre que le Conseil des ministres se déroule à Matignon, sans le président de la République, sous la présidence du Premier ministre, et que le Parlement soit reconnecté à la société par l'adoption de la proportionnelle. Et là, vous allez retrouver un équilibre des pouvoirs.
Ce qui est sûr, en tout cas, Dominique Rousseau, c'est qu'en France, tout remonte au président. On va le voir avec une illustration, la question du courrier de l'Élysée. Deux sociologues viennent d'y consacrer un ouvrage, Écrire au président. Ils ont pu analyser les mails et les courriers qui arrivent chaque jour. 1500 envois qui sont triés et traités par 70 personnes. Rémi Brancato a pu visiter ce service très spécial. On vous propose ce soir une rediffusion de son reportage.
Quand on écrit à Emmanuel Macron, la lettre n'arrive pas directement à l'Élysée, mais ici, au palais de l'Alma de l'autre côté de la Seine, qu'est Branly.
Tous les courriers sont numérisés, donc comme vous le voyez là, ils passent dans les scanners.
Cédric Bonamigo dirige ce service de la communication directe, 1000 à 1500 courriers et mails tous les jours.
Il y a une première lecture de ce courrier en fonction de l'urgence, la menace de suicide ou alors un courrier d'un personnage politique ou médiatique. Dès qu'on reçoit le courrier, il est traité en urgence.
Les lettres sont ensuite orientées, il y a le courrier pour l'épouse du chef de l'État, le courrier envoyé par les élus, traité à part, et celui des citoyens.
On a une liste de tous les courriers qui me sont affectés pour cette semaine.
Face à son écran d'ordinateur, Brigitte travaille depuis plus de 20 ans au pôle requête. Elle traite les demandes d'aide très nombreuses.
Beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. On les transmet à la justice pour l'accélération de la procédure. On répond avec beaucoup d'empathie. C'est pas évident. Des parents qui vont écrire pour parler de la mort de leur enfant tué par un chauffard de la route. C'est très difficile de répondre aux parents.
Il faut savoir prendre du recul.
Christine Lahollande est responsable de la correspondance.
Ils sont souvent des personnes qui rencontrent des difficultés et ils voient en le président de la République, leur sauveur en quelque sorte, c'est le dernier rempart pour trouver une solution à leurs problèmes.
Et puis il y a tous ceux qui s'agacent.
Donc ici on est sur le pôle opinion.
Le pôle opinion, c'est le guichet des commentaires politiques, de l'encouragement aux critiques qu'épluche Julien.
Ça colle plutôt à l'actualité. En ce moment par exemple, beaucoup de thématiques autour du pouvoir d'achat, notamment de la hausse des prix du carburant, de la prime de 100 euros versée.
Il doit répondre à tous, sauf aux insultes, et quand il trouve une lettre digne d'intérêt, il peut la signaler. 10 à 15 courriers de Français remontent chaque semaine jusqu'au bureau du président. Cédric Bonamigo finalise la sélection.
Là, sous les yeux, vous avez le message d'une fille de 11 ans. Je ne suis pas contente de devoir encore porter le masque au collège. Il me donne chaud et des boutons sur le nez. Le président a répondu à ce message qui est aussi court que ça.
Oui, parce que ça démontre aussi que ce sujet est loin d'être anodin et qu'il nous semblait important.
Le président lui répond, dès que l'évolution de l'épidémie le permettra, tu peux compter sur moi pour lever l'obligation du port du masque. Et il a ajouté à la main courage, point d'exclamation. Emmanuel Macron est friand de ce courrier.
En tout cas, il est assidu à sa lecture. Je considère comme un enjeu effectivement un peu central du service, cette capacité à mettre directement en lien le président et des citoyens sans intermédiaire.
Avec la crise sanitaire, l'an passé, le volume du courrier est passé de 200 à 300 000 par an. Et Cédric Bonamigo, en poste depuis un an et demi, a réorganisé le service.
Présidence de la République, bonjour.
Il inclut désormais le standard et fournit aussi des notes de synthèse avant les déplacements du président et même davantage.
Imaginons demain, il se trouve dans les Côtes d'Armor.
Adrien Di Rollo est chargé de mission.
Les personnes qui ont écrit le département des Côtes d'Armor, on va proposer une rencontre entre le président et ses citoyens.
Le livre Écrire au président a noté ce changement. L'Élysée s'appuie davantage sur une analyse numérique des courriers. Michel Auferlet, sociologue, professeur émérite à l'ENS, l'un des deux co-auteurs.
Vous avez depuis maintenant presque un an la constitution d'une base de données qui comporte à la fois les requêtes, les opinions, le courrier des élus, mais également les éléments de la presse quotidienne régionale. Ce courrier est considéré désormais comme une manière de comprendre ce qu'on appelle l'opinion publique aux yeux de l'Élysée. Il y a une partie du courrier qui est très gilet jaune. Ces cas personnels de problèmes de fin de mois ont été renvoyés aux services sociaux. Si on les prenait dans leur généralité, on pouvait voir qu'il y avait effectivement un problème social beaucoup plus important.
Un outil pour sentir des signaux faibles, sans doute très utile en période de pré-campagne.
Dominique Rousseau, vous aviez écrit un livre qui s'appelait Le Consulat Sarkozy. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, Emmanuel Macron ?
Ah ben écoutez, je dirais que...
La même chose ?
Comment ?
La même chose ?
La même chose. Le consulat Sarkozy. Pourquoi consulat ? Parce que il y avait trois personnes. Il y avait Jean-François Copé qui était le président du groupe parlementaire à l'époque et qui a mené la vie dure à Nicolas Sarkozy. Il y avait François Fillon qui au départ était un simple collaborateur et qui s'est affirmé progressivement. Et puis il y avait Nicolas Sarkozy. Là avec Emmanuel Macron, il est tout seul. Est-ce qu'on a un président du groupe parlementaire qui s'oppose ou qui peut faire contrepoids? Est-ce qu'on a un premier ministre qui peut faire contrepoids? Celui qui aurait pu faire contrepoids, il l'a viré. Donc, je pense que là, on est véritablement, dans le contexte aussi de crise, on est dans un président qui rassemble sur son pouvoir, sur sa personne, tous les pouvoirs. Mais c'est pas, comment dire, il a une conception gaullienne. Quand je dis conception gaullienne, je me réfère à la conférence de presse du général de Gaulle du 31 janvier 64, où de Gaulle disait « Il n'existe aucune autorité ministérielle, civile, militaire et judiciaire qui ne dépende pas de moi ». Donc, vous voyez, le général de Gaulle a...
Donc il y a de quoi tenir quand même. Hein.
Le général de Gaulle disait que tout est en ma personne. Ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors votre reportage est très très intéressant.
Ami Brancato. Hein,
moi je croyais que quand Emmanuel Macron rencontrait les gens, il était spontané, mais apparemment pas du tout. On lui fait ce qui se passe dans Côte d'Armor, on lui fait...
Ça travaille.
Avant. Mais ce qui est important... dans ces lettres, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation directe. Ça veut dire qu'on a un problème avec les corps intermédiaires. Ça devrait être les associations, ça devrait être les syndicats qui fassent ce type de travail. Or, nous souffrons en France de cette relation directe entre le chef et le peuple. Ça ne peut pas durer longtemps pour la qualité démocratique qu'il n'y ait pas d'intermédiaires, les collectivités. C'est ce que disait Tocqueville. Hein. La qualité d'une démocratie dépend de l'intensité des collectivités locales et des associations.
Ah bon, on va parler dans la dernière partie effectivement de comment rénover cette démocratie. On parlera aussi de vous, Dominique Rousseau. Mais d'abord, allez, un petit cadeau, c'est Georges Brassens.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Mourir pour des idées. Georges Brassens, choix musical de Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Émérite, Dominique Rousseau, ça veut dire que vous êtes à la retraite mais que vous continuez de travailler. Ça, c'est un peu hybride comme situation.
Tout à fait, oui. L'éméritat permet aux professeurs de continuer à enseigner, en tous les cas en cinquième année, en M1 et en M2, pas en licence évidemment, et continuer à diriger les thèses des doctorants qui ont été inscrits avant que ce professeur soit à la retraite.
L'enseignement, c'est votre truc ?
Ah oui. Oui, oui. Je n'aurais jamais, pour rien au monde, quitté l'université, écrire, transmettre son savoir, regarder l'interrogation des jeunes, le vocabulaire qui change, les objets juridiques qui changent. Regardez, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la nature est un sujet de droit, si l'animal est un sujet de droit. Voilà des questions qu'on ne se posait pas il y a 15, 20, 30 ans. Donc, être au contact de la jeunesse qui rentre dans le champ de la connaissance a pour moi été, une passion.
Vous avez enseigné ces dernières années donc à Paris 1 pendant la Sorbonne. Pendant des années avant, vous aviez enseigné à Montpellier.
Absolument.
Et au départ, vous avez fait vos études, vous, à Poitiers, c'est ça?
J'ai fait mes études à Poitiers. Grande faculté où j'ai de garder de bons souvenirs, évidemment, des collègues avec lesquels je suis évidemment toujours en contact. Et des années universitaires, évidemment, que je n'oublierai pas.
Des années marquées notamment par mai 68.
Des années marquées.
On a bien compté, hein.
Voilà, des années marquées par mai 68.
Il y avait des barricades à Poitiers ?
Il y a eu des barricades à Poitiers parce qu'on était en train de construire un campus à l'extérieur de Poitiers et il y avait une route à quatre voies qui traversait le campus et évidemment il y a eu des accidents. Un étudiant d'ailleurs s'est fait écraser et donc on a fait des barricades, on s'est apostrophé avec évidemment les CRS, on s'est réfugié dans les cités universitaires et on a versé sur la tête des CRS des liquides un peu chauds.
Vous, le professeur de droit, vous avez fait ça ?
Eh ben oui, j'ai fait ça.
Et donc,
il y a prescription, hein,
il y a prescription, effectivement. Toujours est-il qu'on vous a un petit peu demandé d'aller finir vos études ailleurs, tellement ça avait.
Alors oui,
choses,
effectivement, c'était l'époque. J'avais fait partie du mouvement qui retenait les notes, hein, la grève administrative, et mon directeur de thèse m'avait dit, écoutez Rousseau, bon, ok, vous avez fait une bonne thèse, pas de problème. Effectivement, j'ai eu la thèse avec la mention très bien, les éloges. Mais il m'a dit bon, je vais plus vous voir à Poitiers. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Nancy. Et puis après, donc à Montpellier et Paris. Mais alors, c'était au départ, j'étais pas content de partir de Poitiers. C'était ma ville, là où j'avais tous mes amis, là où mes filles sont nées.
Finalement, l'est de la France, ça va si mal.
Et finalement, non. Ainsi, j'ai rencontré un professeur extraordinaire, à qui je veux rendre hommage, qui est Charles Chaumont. Un professeur extraordinaire qui m'a donné une autre vision du droit. Et finalement, ce coup de pied aux fesses qui m'a envoyé de Poitiers à Nancy m'a permis, disons, de m'ouvrir à une autre vision, à une autre manière de concevoir et de penser le droit.
Et justement, le droit, comment y êtes-vous arrivé au départ ? C'était une passion familiale ? C'était une envie de vous occuper de cette matière ?
Vous parliez de mai 68. Paradoxalement, j'ai été attaché, moi, à mai 68, c'était une revendication de droit. Le droit pour les femmes. Le droit de sortir librement. On cassait en quelque sorte la société d'avant par la demande et la reconnaissance de droit. Et j'ai fait le lien entre les luttes sociales, les luttes politiques et leur débouché dans le droit. Ce que je percevais à l'époque, c'est que toute revendication sociale, toute lutte sociale demande à un moment donné à être inscrite dans le droit, soit dans une loi, soit dans la Constitution. Mai 68, c'est Gisèle Halimi, c'est les premiers mouvements féministes, et qu'est-ce qu'elle demandait ? À ce que la loi soit changée, à ce que le droit soit changé. Et donc, j'aurais pu considérer en mai 68 que on remettait en cause le droit. Alors oui, on remettait en cause le droit existant, mais pour un autre droit. Un droit qui soit, comme disait Camus, à hauteur d'homme. Et j'ai été beaucoup influencé par Camus qui a cette phrase que je trouve absolument extraordinaire, qui dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Non pas « Je me révolte, donc je suis », mais « Je me révolte, donc nous sommes ». Et toute révolte débouche sur le droit. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les jeunes qui manifestent pour le climat, ils demandent que soit reconnu dans la Constitution le droit au respect de la diversité, le droit de lutter contre le changement climatique, ou qu'il y ait des traités internationaux sur le respect de la diversité. Donc, toute lutte sociale débouche par le droit. Et c'est ça qui m'a attiré vers le droit.
Et d'où l'importance de donner à la justice les moyens de travailler. On n'aura pas le temps de l'évoquer, de rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a la moitié de la profession des magistrats qui demandent des moyens pour pouvoir faire respecter la loi, tout simplement.
Et j'ai eu à connaître ça de l'intérieur, puisque j'étais au Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006, et voir les magistrats aujourd'hui signer cette tribune, depuis 20 ans, rien n'a été fait, parce que déjà, nous, en 2002, on faisait le même constat. Absence de moyens, pas de greffiers, pas suffisamment de juges. Et la justice, oui, est malheureusement malade dans notre démocratie. Et quand la justice est malade, c'est la démocratie qui est malade.
Et alors, on en revient à ce numéro spécial de la Revue du droit public. Vous dites qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ces atteintes à l'état de droit, paradoxalement, et c'est votre côté optimiste, ça pourrait aboutir à une réhabilitation paradoxale du droit.
Oui, parce que... quel point de vue on critique le droit ?
Et vous avez même pas une minute pour répondre.
Même pas une minute. Si vous voulez, comment on critique l'état d'exception ? On critique l'état d'exception au nom du droit. On dit que le président de la République ne respecte pas la séparation des pouvoirs. On dit que le président de la République ne respecte pas les libertés. Autrement dit, on redécouvre l'importance du droit pour la qualité démocratique d'une société. C'est parce qu'aujourd'hui, le droit est mis en cause. Vous savez, il y a cet épisode, on s'est rendu compte que la Joconde était un tableau magnifique lorsqu'il a été volé. Voilà. Lorsqu'il a été volé, tout le monde s'est précipité au Louvre pour regarder cet espace vide. Eh bien, c'est quand quelque chose s'en va qu'on se rend compte qu'il est important. Et je pense qu'aujourd'hui, on redécouvre l'importance du droit pour la qualité démocratique d'une société.
Voilà, les états d'exception, un test pour l'état de droit. Dominique Rousseau, on aurait pu rester des heures pour en parler. C'est pointu, mais il y aura bientôt un livre plus grand public. Je ne sais pas si on en dit... allez, vous avez 3 secondes pour en dire un petit mot.
Oui, je prépare, enfin, je dois sortir un livre chez Odile Jacob, il doit sortir le 4 février, justement une réflexion sur la démocratie, ce que j'appelle la démocratie continue.
Merci beaucoup. Merci Dominique Rousseau, on y reviendra bien évidemment.
Merci.